enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Une question aujourd'hui dans les enjeux internationaux. L'alternance entre grands partis de droite et de gauche est-elle terminée en Europe?
Voilà, avec notre invité Philippe Moreau-Defarge, bonjour.
Bonjour Thierry Garcin.
Alors vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On le sait, dans un certain nombre de pays européens, petits ou grands, l'alternance entre grands partis de droite et grands partis de gauche, s'appuyant souvent sur de petits partis d'appoint, était chose coutumière. Alors on pensait même que ce mouvement de balancier allait se répéter à la longue sur l'ensemble du continent. La réalité est plutôt différente. Près d'une trentaine d'années après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire entre autres après la fin du communisme dans les pays satellites, et si l'on s'en réfère à quelques grands pays, une rapide approche sociopolitique révèle des situations plus complexes qu'il n'y paraît. Alors, pêle-mêle, on pourrait citer le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, bien sûr, des pays moins importants en taille en Europe du Nord, en Europe centrale. Alors, ce qui l'emporte pour l'heure et pour le non-spécialiste, c'est quand même la grande diversité des évolutions politiques, encore une fois, sur le temps long passé.
Oui, d'abord, tout à fait, la signification droite-gauche n'a pas le même sens tout à fait en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Là, je dirais, c'est une distinction réelle, mais qui a des sens très particuliers dans chaque culture politique. Premier point. Deuxième point, ce clivage droite-gauche, il a eu beaucoup d'exceptions, si vous voulez. Il y a eu des moments de grandes coalitions, de gouvernements d'Union nationale, il y a eu les fameuses troisième forces ou la quatrième république. Donc ce clivage droite-gauche, il n'est pas si clair que ça. Il est mouvant, il est marqué par les modes de scrutin, par ensemble d'éléments. Alors, la question que vous posez, c'est y a-t-il quelque chose de nouveau aujourd'hui pour perturber ce clivage droite-gauche? Oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a deux choses nouvelles. Premièrement, il y a considérablement une usure des systèmes politiques, une lassitude des électorats qui ont le sentiment que, au fond, la droite et la gauche, c'est un peu la même chose. Il y a ce sentiment de la pensée, cette fameuse pensée unique qui est dénoncée. Donc, il y a cette lassitude et cette recherche d'un nouveau clivage que, évidemment, la droite et la gauche ont du mal à construire parce que la démocratie est aussi un régime de conciliation, de compromis. Ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison qui est d'ordre international, c'est, disons, le développement de la mondialisation et pour les États européens, la construction européenne. C'est vrai que cette donnée perturbe considérablement le clivage droite-gauche. Pourquoi? Parce que le clivage droite-gauche suppose que l'État est souverain, peut faire les choses, que tout peut être réglé au niveau de l'État. Et l'on découvre tout d'un coup, avec la mondialisation et notamment la construction européenne, que tout ne peut pas être réglé au niveau de l'État, mais doit être réglé par des négociations interétatiques ou par des cadres interétatiques.
Alors il y a une chose aussi qui frappe, si vous en êtes d'accord, Philippe Moreau-Defarge, c'est le fait que effectivement ces grands partis de gouvernement ici ou là peuvent être émis était effondré, et qu'en même temps il y a l'émergence, mais ce n'est pas nouveau, de ce qu'on appelle des manifestations de la dite société civile. Alors on le voit en Espagne avec les indignés, on le voit avec en Italie avec 5 étoiles et etc. Ce sont plus d'ailleurs on le voit avec des fronts et autres, ce sont plus des mouvements ou des, comment pourrait-on dire, des amalgames que des partis doctrinaires.
Vous avez tout à fait raison. Alors là, on assiste à un phénomène plus général des sociétés démocratiques modernes. C'est ce que j'appelle le passage des identités héritées aux identités bricolées. Les identités héritées, c'est-à-dire que nous recevons notre identité de notre héritage. Nous sommes communistes, nous sommes catholiques, nous sommes démocrates chrétiens, et nous, de génération en génération, nous restons fidèles à cette identité. Donc, l'identité nous est donnée comme un héritage que l'on garde. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette identité héritée s'écroule, se défond au profit de ce que vous dites, des amalgames extrêmement instables. Donc, il y a des fronts qui se créent pendant quelques mois, quelques années, qui tiennent, qui se cristallisent, qui disparaissent en fonction des problèmes du moment. Donc vous voyez, il y a une véritable transformation des sociétés démocratiques avec incontestablement une crise du système démocratique dans ce passage des identités héritées aux identités bricolées.
Alors il y a justement ce phénomène assez complexe et très hybride du populisme qui est très différent d'un pays à l'autre, y compris en Europe centrale, Hongrie, Pologne, etc., Croatie et autres. Mais ces populismes finalement appartiennent à ces mouvements complexes. Et quand on met dans populisme, on met aussi extrême droite qui sont très diversifiées entre le nord de l'Europe, le sud de l'Europe, c'est-à-dire qu'au fond, ce sont des évolutions, encore une fois, plus sociologiquement et sociopolitiquement, bien sûr, plus complexes qu'on ne le pense.
Oui, ces populistes, si vous voulez, sont à la fois de gauche et de droite. On voit que dans les populismes de gauche et les populismes de droite, il y a beaucoup d'idées communes. Et je dirais que le point commun, malgré tout, c'est le rejet et la contestation de la mondialisation. l'organisation ou la constatation, je dirais, de la gouvernance internationale. C'est ça le point commun. Et le grand thème de ces pays, c'est retrouvons notre souveraineté, réaffirmons notre souveraineté face à ces phénomènes qui nous anonyment, qui nous noient dans une masse humaine. Donc on voit bien que, je dirais, le populisme, c'est aussi une forme d'expression nationaliste, quelque chose, une forme de souverainisme. On voit bien que tout ça se rejoint. Et bien évidemment, ces phénomènes populistes tentent à gommer le clivage droite-gauche, parce que on voit bien que dans ces populistes, schématiquement, les extrêmes peuvent se rejoindre.
On a parlé d'Italie, on a parlé de l'Espagne, on pourrait parler du Royaume-Uni, où le UKIP donc a gagné le Brexit et a un peu siphonné le Parti conservateur, et le Parti travailliste, on y reviendra ici même plus tard, est dans un état, comment dire, pré-comateux. Et puis alors on voit aussi en Allemagne une chose intéressante, c'est les gouvernements, vous l'avez cité, de grande coalition, depuis 2005, sauf une exception, ces gouvernements de coalition, et en plus, dans les lenders allemands, c'est encore plus les, comment pourrait-on dire, les agencements partisans sont encore plus complexes au niveau du Land.
Ah, tout à fait.
À l'échelle du Land.
Il y a un phénomène qu'on trouve dans une moindre mesure en Allemagne, mais au Royaume-Uni, c'est ce qu'on peut appeler les partis ethniques. Le Scottish National Party, c'est véritablement un parti un peu ethnique dont l'objectif est l'indépendance de l'Écosse. De même, dans le cas de l'Allemagne, il y a l'identité bavaroise, vous savez, le CSU, l'élément CSU de la CDU. Donc on voit bien qu'il y a, si vous voulez, il y a ces éléments de fragmentation. Mais pour rester sur le Royaume-Uni, vous avez mentionné le UKIP. Le UKIP qui a mobilisé beaucoup de Britanniques lors du référendum, de la campagne référendaire, a complètement disparu. Il a complètement disparu. Et effectivement, aujourd'hui, le Parti conservateur est très dominant du fait de la disparition de forces alternatives, mais le Parti conservateur est lui-même très divisé entre partisans de rester dans l'Europe, enfin partisans pro-européens, et partisans du Brexit.
Oui, on a tort d'ailleurs, Philippe, je pense que vous êtes d'accord, on a tort de mettre les eurosceptiques au Royaume-Uni et les europhobes dans le même sac. On dit, et moi-même premier, on dit toujours eurosceptiques, europhobes, mais en fait, il y a quand même une différence.
Ah oui, il y a une différence. Disons que les Britanniques sont par nature eurosceptiques. Ils ont rejoint l'Union européenne par raison. Ils n'ont jamais été eurofanatiques. Alors, les europhobes, c'est ceux qui rejettent carrément la construction européenne, qui veulent sortir de l'Union européenne. Et on a vu que ce courant de rejet de l'Union européenne qui s'exprimait très peu il y a 15-20 ans, existe beaucoup plus aujourd'hui et tend à s'enraciner dans certains États. Et on comprend, si vous voulez, l'élément commun, c'est le rejet, quelque part, de l'internationalisation, ou plutôt, le meilleur, c'est la perte de souveraineté, la volonté de récupérer, de retrouver sa souveraineté.
Alors, il y a la question, Philippe Mordefage, de l'abstention. C'est un domaine qui devient très vite technique d'un pays à l'autre, très technique, mais au fond, ces mouvements qui ne sont pas réellement des partis, souvent sont une forme de lutte contre l'abstention. En tout cas, c'est une prise de position, et la plupart du temps, ces mouvements vont aux urnes.
Ah bah oui, et justement, si vous voulez, l'un des problèmes aussi des démocraties, notamment en Europe, c'est la montée de l'abstention, c'est l'inquiétude devant la montée de l'abstention, c'est-à-dire d'individus qui soit sont indifférents à la politique, soit ne se reconnaissent pas dans les forces politiques en présent. Et de certains points de vue, les populistes se présentent comme une alternative en disant nous sommes capables, nous, de vous proposer quelque chose qui vous convient, dans lequel qui vous reconnaissent. Mais c'est vrai que ça crée des systèmes beaucoup plus instables. On voit bien qu'il y a une tension très forte entre, je dirais, les grands partis établis qui souffrent beaucoup, qui sont en grande difficulté, et puis ces espèces d'effervescences plus ou moins stables qui apparaissent à la périphérie du paysage politique officiel.
Reste à savoir si cette évolution, qui a l'air quand même assez manifeste depuis un certain nombre d'années, encore une fois en Europe, ici ou là, si cette évolution est provisoire, est lourde de sens, est durable, encore une fois, puisque c'est le sujet de ce matin, au détriment des grands partis de gouvernement.
Ah, elle est très profonde, parce que, si vous voulez, il y a d'abord, j'ai expliqué la lassitude devant le système politique établi, et puis il y a un autre phénomène qui est effectivement l'internationalisation. On voit bien que nos pays se sont beaucoup internationalisés, à la fois par les échanges, mais aussi par les institutions. Et on voit bien que là, il y a une espèce de débat très fort dans les démocraties occidentales. Est-ce que ces démocraties doivent accepter cette internationalisation, ces gouvernances internationales, ou est-ce que les démocraties doivent réaffirmer leur souveraineté? N'oubliez pas, le problème de la démocratie, c'est qu'elle a besoin d'un peuple. Il ne peut pas y avoir de démocratie que sans un peuple. C'est d'ailleurs un peu le problème de l'Union européenne, où il n'y a pas de peuple européen. Il faut bâtir ce peuple, et c'est vrai que la tentation, la réaction des populistes, c'est de dire, nous avons un peuple, nous allons le préserver, nous allons le conserver, et le défendre contre l'internationalisation ou les gouvernances internationales.
Merci. merci beaucoup. On aurait dû parler peut-être plus des anciens pays de l'Est dans cette affaire-là, depuis 30 ans, parce que c'est un vrai dossier, mais on y revient régulièrement.
C'est un très beau sujet.
Merci beaucoup, Philippe Mordefard. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Et demain, Thierry Garcin, il sera question de l'Iran, l'état de l'économie à 3 semaines de la présidentielle.
Voilà, et donc notre invité, c'est un sujet important, notre invité sera Feridoun Gavand, qui est universitaire spécialiste, bien sûr, de l'Iran.